Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La fourmi dans la coquille, le podcast pour sortir du dédale. De la sobriété des manuscrits cisterciens à la flamboyance des vitraux gothiques jusqu'aux robes noires des nobles de la Renaissance, La fourmi dans la coquille, saison 2, épisode 13, couleurs du Moyen-Âge en Europe. Alors que l'Amérique centrale se remplit de couleurs vives, de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, on pourrait facilement imaginer que l'histoire de la couleur suit une ligne bien tracée tout au long du Moyen-Âge et du développement du christianisme à nos jours, mais en fait il n'en est rien. Si bien sûr certaines symboliques culturelles ont pu naître il y a presque 2000 ans, les valeurs et les associations colorées ont grandement fluctué au gré des religions, des modes, des politiques et des rivalités, et aussi du prix des pigments. Alors que l'étude scientifique et mathématique de la lumière, de l'optique, continue après l'Antiquité dans le monde arabo-musulman, au Moyen-Âge en Europe, la couleur est surtout une affaire de religion. Et le christianisme, autant que la tripartition des sociétés indo-européennes, en trois fonctions religieuses, guerrières et économiques, sont au fondement de la symbolique et de l'usage des couleurs. Certains religieux, comme Bernard de Clairvaux, considèrent que l'usage de la couleur est un artifice futile face à la création divine, et que c'est une enveloppe mensongère qui dissimule la véritable nature des objets. Pour lui, qui est un grand promoteur de l'ordre cistercien, qui est mu par un idéal d'austérité, tout doit conduire à une vie simple et sans distraction propice à la relation avec Dieu. L'architecture, alors, l'art, les manuscrits cistériens suivent ces préceptes dans un style très pur et dépouillé. Les enluminures usent d'une palette de couleurs très limitée, sans dorure, jusqu'à évoluer au XIIe siècle dans un style monochrome mais sans représentation figurative, comme on peut l'observer dans la Bible de Clairvaux qui est aujourd'hui conservée dans la ville de Troyes. Bernard de Clairvaux s'oppose ainsi à d'autres prélats qui, comme l'ordre clunisien ou Suger, l'abbé de Saint-Denis, ôte au contraire le goût des ornements, des dorures et des couleurs. Alors que Suger décide de remplacer l'ancienne abbatiale carolingienne de Saint-Denis et lance plusieurs siècles de travaux qui aboutissent à l'actuelle basilique Saint-Denis, qui est le premier édifice de style gothique de l'histoire, Bernard de Clairvaux écrit « L'église resplendit dans ses murs et elle n'a rien pour ses pauvres ». Elle revêt d'or ses pierres, mais abandonne ses fils tout nus. Aux dépens des miséreux, on régale les yeux des riches. Dans ce débat, Suger répond alors « Ce qui m'a paru juste avant tout, c'est que tout ce qu'il y a de plus précieux doit servir d'abord à la célébration de la Sainte Eucharistie. » Selon Suger, si Dieu prescrit de recueillir le sang des sacrifices des boucs, des veaux ou d'une génisse rouge dans des coupes d'or, alors le sang du Christ doit être reçu dans des vases d'or, de pierres précieuses, de tout ce que l'on tient de précieux dans la création. Quoi qu'il en soit, si les religieux débattent sur l'usage de la couleur, elle fait partie, en particulier l'or et les dorures, des symboles de richesse du Moyen-Âge. On retrouve alors encore l'habituelle opposition transculturelle que j'ai mentionnée à maintes reprises dans nos voyages autour du monde entre le blanc, le noir et les couleurs vives, en particulier le rouge. Le blanc est associé aux fonctions sacerdotales, aux valeurs religieuses et morales. Le rouge et les couleurs jaune-orangées vont aux fonctions guerrières, à la noblesse, tandis que le noir et les teintes foncées, dont font partie le vert, sont associés à la production des biens matériels, donc à la fonction économique, c'est-à-dire le tiers-état. Le blanc devient toutefois un symbole de royauté à la fin du Moyen-Âge et la couleur du drapeau français jusqu'à la Révolution. Il sera gardé d'ailleurs pour former la bande centrale du drapeau tricolore d'aujourd'hui, encadré des couleurs rouge et bleu de la ville de Paris, dans une forme qui a été adoptée pour la première fois par la marine en 1794, à la date de mon anniversaire, précisons-le, c'est-à-dire le 15 février. Les trois couleurs du drapeau étaient cependant déjà en usage sous la royauté, Et on peut aussi y lire la représentation des trois ordres de la société, le rouge religieux de la bannière de l'abbaye de Saint-Denis, élaboré en 1124 par l'abbé Sugère donc, le blanc de l'étendard royal et le bleu, avec une croix blanche, du pavillon de la marine marchande. Dans ce monde chrétien, le blanc est un symbole de pureté, d'humilité, tandis que le noir, c'est le symbole des ténèbres et de la mort, c'est une couleur peu présente. La teinture noire n'est de toute façon pas encore maîtrisée à l'époque. Au début du Moyen-Âge, il n'y a pas de véritable noir. On marque alors le deuil, comme en Asie d'ailleurs, par le port de vêtements non teints, de vêtements naturels et non pas noirs. Il n'y a pas non plus véritablement de bleu jusqu'à la fin du XIe siècle, celui-ci étant considéré comme une variété de noir. C'est seulement au milieu du Moyen-Âge que le bleu se différencie et devient un symbole de pureté et de candeur, utilisé pour représenter le voile de la Vierge, par exemple, et adopté par les vêtements et les armoiries. C'est aussi à cette période qu'on commence à associer des couleurs aux vêtements des bébés en fonction de leur sexe, alors qu'auparavant on les habillait de layettes bariolées découpées dans des vieux vêtements des adultes. Ce bleu divin de la Vierge, qui est considéré comme une couleur chaude, est alors associé aux filles. Et c'est le rose, qu'on voit comme un rouge viril bien que pâle, qu'on associe aux garçons, avant que tous ne reçoivent un vêtement unisexe blanc en grandissant. On est donc à l'extrême inverse des symboles colorés dédiés aux filles et aux garçons d'aujourd'hui, parce que cette association est bien purement culturelle. À la suite de la Grande Peste, au milieu du XIVe siècle, qu'on va renommer plus tard Peste Noire d'ailleurs, les lois somptuaires, c'est-à-dire les lois qui prescrivent la consommation en fonction de l'appartenance sociale, ethnique ou religieuse. Les lois qui servent à rendre visible l'ordre social, par exemple en interdisant l'usage des produits de luxe à certaines catégories sociales ou en prescrivant un style vestimentaire. Au milieu du XIVe siècle, donc, à la suite de la Grande Peste, ces lois somptuaires interdisent aux aristocrates romains de porter des vêtements colorés, qu'on juge ostentatoires en cette période de deuil, et le noir est donc progressivement adopté dans les cours européennes. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, les teinturiers progressent aussi à la fabrication du noir. Comme je disais, il a été peu utilisé avant aussi parce qu'on savait juste pas le faire. Mais le véritable noir profond reste toujours difficile à atteindre. Il déteint facilement et tend vers le brun ou un violet grisâtre. L'habit noir est alors un signe de richesse. Et le clergé comme les nobles finissent par s'habiller de noir, complètement de noir à la fin du Moyen-Âge et pendant la Renaissance, comme on le constate facilement dans les portraits du XIVe, XVe, XVIe siècle, en particulier par exemple de la cour de Henri VIII. L'or et l'argent, dans une moindre mesure, sont des métaux nobles et qui ne s'oxydent pas, qui se dégradent pas et gardent facilement leur éclat au fil du temps. Ils ont donc une grande valeur monétaire autant que symbolique. Les fabriquer à partir d'autres métaux fait partie des objectifs des alchimistes depuis l'Antiquité, et cette discipline, l'alchimie, cette discipline proto-scientifique, donnera plus tard naissance à la chimie. Les dorures, aussi bien sur les enluminures ou l'architecture que les vêtements, sont donc un moyen de montrer la richesse et la sophistication. Le jaune, au contraire, le jaune qui ne brille pas, qui est terne et triste, la couleur du soufre, qu'on considère à l'époque comme maléfique, est alors associée à la maladie et au déclin, à la trahison. À la fin du Moyen-Âge, ce jaune devient la couleur de la robe de Judas. Il est la couleur qui s'oppose le plus au bleu vif du voile de la Vierge. Faut dire que l'éclat du jaune dans la nature, qui rayonne autant dans la brillance de l'or que dans l'éclat du soleil ou des feuilles de l'automne, cet éclat est très difficile, voire impossible à reproduire aussi bien en peinture qu'en teinture. C'est d'ailleurs toujours aussi difficile à obtenir aujourd'hui en imagerie numérique. Ce jaune artificiel, du coup, qui tend facilement vers des teintes ternes et sales, rappelle le teint jaunâtre que donnent les maladies du foie ou la bile de la colère dans la théorie des humeurs qu'on hérite de la médecine antique d'Hippocrate et de Galien, qui guidera la médecine du Moyen-Âge et encore même au-delà. Selon cette théorie antique de la médecine, le corps est constitué de quatre humeurs. Le sang rouge est produit par le foie et reçu par le cœur, puis nourrit les muscles, et on l'associe au tempérament sanguin, celui qui est jovial et chaleureux. La pituite, l'humeur qu'on appelle aussi la phlegme ou la lymphe, elle est associée à l'eau et à la pureté du blanc, à un tempérament imperturbable, au sang froid, voire à un tempérament apathique. L'arabile ou la bile noire, elle, elle vient de la rate et provoque la tristesse et le chagrin. Et enfin, la quatrième humeur, la bile jaune, est produite par le foie, tout comme le sang, et invoque la colère, la violence. Et Ambroise Paré, au XVIe siècle, l'associe aussi à la vertu expulsive des intestins. Je vous laisse imaginer ce que c'est que la vertu expulsive des intestins, j'ai pas trop envie de la décrire. On retrouve, encore et toujours, dans ces quatre humeurs, les contrastes noir, blanc et rouge, auxquels on ajoute le jaune, et la symbolique européenne de ces couleurs qui m'est parvenue à moi aujourd'hui, en tant que produit de la société française du XXe siècle, malgré les évolutions et révolutions culturelles, du blanc pur, du noir triste, du rouge chaleureux et du jaune de la maladie. Revenons un petit peu sur ce jaune, parce que c'est aussi au Moyen-Âge que prend racine un antisémitisme déjà associé à cette couleur. Le quatrième concile du Latran, en 1215, impose aux juifs et aux musulmans de porter des signes distinctifs. Le concile dira, je cite, « Dans certaines provinces, la différence dans l'habit distingue juifs ou sarrasins des chrétiens, mais dans d'autres, s'est répandue une telle confusion qu'aucune différence ne les distingue. Aussi arrive-t-il parfois que, par erreur, des chrétiens s'unissent à des femmes juives ou sarrasines et des juifs ou des sarrasins à des chrétiennes. » Vous imaginez le scandale et le besoin de trouver des solutions à cet état de fait. Pour les juifs, les signes distinctifs qu'on impose sont vestimentaires et consistent en un béret ou un chapeau pointu, évidemment jaune. Et en France, ils porteront aussi une rouelle, une petite pièce d'étoffe, jaune aussi. Notons que les chrétiens du XIIIe siècle ne font pas preuve d'innovation parce que dès le IXe siècle, les califes musulmans imposaient déjà aux dhimmi, les résidents non musulmans, de porter un signe distinctif, bleu pour les chrétiens et déjà jaune pour les juifs. On associait aussi d'ailleurs les chrétiens à l'image du porc, tandis que les juifs étaient associés à l'image de l'âne ou du singe. Et les musulmans du IXe siècle héritaient eux-mêmes déjà bien sûr de pratiques que j'appelle racistes plus anciennes, parce que la tolérance, et en particulier la tolérance religieuse, n'est pas vraiment une vertu courante dans les sociétés humaines, il faut bien le dire. Le XIIIe siècle marque malgré tout un tournant dans l'histoire juive et surtout dans celle de l'antisémitisme en Europe. Et les juifs perfides, j'espère que vous entendez les guillemets que je mets, les juifs perfides se voient donc interdits d'occuper des fonctions d'autorité et toute relation professionnelle et sociale avec les chrétiens. Ou encore, ils se voient interdits de se montrer pendant la Semaine Sainte. On leur attribue assez logiquement la couleur jaune du traître Judas, image de la différence entre l'or vrai et brillant, et un vil métal terne tel que les alchimistes peuvent en fabriquer sans parvenir à faire de l'or. On conduit aussi à l'époque les faux monnayeurs au supplice en les couvrant d'une robe jaune. À cette époque-là, faut noter que le vert est aussi une couleur difficile à atteindre, que les teinturiers peinent à fixer, et du coup, ce vert représente la frivolité, celle de l'amour ou de l'enfance, mais aussi la chance et le hasard, puis deviendra la couleur de l'islam et du diable. Ça va avec. Il serait difficile de terminer ce tour des palettes de couleurs du Moyen-Âge sans évoquer les vitraux, évidemment, dont le développement s'étale sur toute la période. Sur un vitrail, la couleur est lumineuse, et en tant que telle, elle est liée, très liée au divin. Mais la palette de couleurs reste dans un premier temps assez limitée à du bleu clair, du jaune ou du verdâtre. Ces couleurs sont obtenues en mélangeant certains oxydes au vert, et il faut attendre au moins 3 siècles après l'invention des vitraux au 5e siècle pour que la palette s'élargisse. Le rouge auparavant était trop foncé, mais il finit par se répandre parce qu'il est éclairci par de nouvelles techniques de fabrication, où on alterne du vert coloré et incolore en différentes couches. Viennent ensuite l'invention de la grisaille, c'est-à-dire une peinture qu'on applique sur le vert et qui est cuite, qui permet d'élargir encore les possibilités, jusqu'à l'invention du jaune d'argent au XIVe siècle, un nouveau type de peinture, jaune vive, qui pénètre le vert à la cuisson et permet de dessiner des couleurs éclatantes à une époque où on cherche des vitraux clairs et lumineux tout en associant deux couleurs sans besoin de séparateur de plomb entre les morceaux de vert. La Renaissance et la période moderne qui suivront verront progressivement l'amélioration des techniques de fabrication des couleurs en tout genre et leur usage de plus en plus facile pourra s'accompagner de nouvelles règles, de modes et de symboles avant que les sciences naissantes, notamment la physique et la chimie, ne viennent aussi apporter une nouvelle compréhension et de nouvelles techniques qui apporteront au monde moderne une variété de couleurs encore jamais vues dans l'histoire humaine. Ce sera le sujet du prochain épisode. Si le podcast vous plaît toujours autant, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux, mais aussi à vos collègues, votre famille, vos amis dans la vraie vie réelle, parce qu'il nous faut contourner les algorithmes qui n'aiment pas trop, eux, ce genre de contenu. N'hésitez pas aussi à liker, mettre des étoiles, des cœurs, des pouces levés sur votre plateforme d'écoute du podcast. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. À bientôt, toujours en couleur. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal par Nicolas Dufresne. Merci à Anna Alcé pour son travail de relecture et à mon ami Wassaru pour sa musique. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don et nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la lettre d'information du podcast.
The more I hear about this, I mean, it just gets crazier and crazier.